Le journal Julie Smul.
Bonjour à tous. Les gilets jaunes mobilisés pour le 24e samedi de suite aujourd'hui partout en France. Deux rassemblements à surveiller, Paris et Strasbourg, nous serons sur place. Le nombre de manifestants va compter aujourd'hui, deux jours après les annonces d'Emmanuel Macron. Pendant ce temps-là, le gouvernement planche déjà sur les mesures à mettre en place. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, annonce ce matin 2000 postes de plus par an dans l'enseignement primaire. On va l'entendre. 37 millions d'Espagnols appelés aux urnes demain, législatives anticipées et un pays dans le flou total. L'ombre de l'extrême droite plane plus que jamais sur le pays. Le parti Vox est en embuscade. C'est le dossier de ce 13h. On va en parler avec notre invité, l'historien Benoît Pélistrandi. Le sport aussi, l'événement du jour, c'est le foot. La finale de la Coupe de France, les Bretons de Rennes face aux superstars du PSG. Et puis d'ici un quart d'heure, nous irons à Monaco, nous irons au chevet des tortues blessées. On va vous expliquer.
France Inter.
Un nouveau samedi de mobilisation des Gilets jaunes avec une question. Combien seront-ils dans les rues de France? Est-ce que les annonces du président Macron ont calmé les esprits ou au contraire, est-ce qu'elles vont rebooster le mouvement? À Paris, un défilé s'élance en ce moment depuis le quartier Montparnasse, direction la place d'Italie. Alors attention, ce n'est pas à proprement parler une mobilisation de Gilets jaunes, c'est plutôt un cortège qui se revendique convergent. Mot d'ordre, riposte générale. Sébastien Sabiron, vous êtes sur place, vous êtes au milieu de quelques centaines de personnes qui viennent donc de partir du quartier Montparnasse.
Oui, avec une petite demi-heure d'avance sur leur prévu, des gilets jaunes, des gilets rouges de la CGT qui marchent ensemble. Une image assez inédite depuis le début du mouvement, au grand regret de Stéphane, encarté à la CGT et gilet jaune depuis le début.
C'est un mouvement inédit, le mouvement des gilets jaunes. Personne ne peut dire ce que ça va donner. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui ont peur de la récupération, qui veulent garder la main sur le mouvement. Nous, on croit à la convergence. J'ai l'impression que s'il n'y a pas de convergence, le mouvement va s'éteindre petit à petit.
D'autant que les revendications se rejoignent, estiment nombre de syndicalistes comme de gilets jaunes. Emploi, pouvoir d'achat et ces annonces d'Emmanuel Macron jugées insuffisantes par toutes les parties.
Il nous parle d'une baisse d'impôts, mais à côté, il va falloir travailler plus. Déjà, pour travailler plus, je voudrais bien. Mais nous, artisans, quand je vois la concurrence qu'on a avec les Roumains et les Polonais qui travaillent à moitié prix de nous, qui sont installés dans la Marne, et que nous, on n'a plus de boulot, je ne sais pas comment on va faire. Et de toute façon, s'ils ne relancent pas le pouvoir d'achat, je ne sais pas ce que ça va donner, mais on est en train de tous partir en vrille.
Des miettes de l'enfumage, pas un mot sur le RIC, le référendum d'initiative populaire. Jean-Pierre Gilet jaune de Nemours n'est lui pas convaincu par les annonces sur les retraites.
Moi personnellement, en 15 ans que je suis en retraite, j'ai perdu à peu près 150 euros par mois de perte de pouvoir d'achat. Et l'indexation des petites retraites de moins de 2000 euros, c'est tout le monde qui devrait être indexé depuis X temps. On demande une retraite de 1200 euros minimum.
Et le cortège assez ramassé emprunte à présent le boulevard du Montparnasse en direction de la place d'Italie dans le sud de la capitale.
Sébastien Sabiron avec Fabien Gosset pour les moyens techniques. Les Gilets jaunes appelaient aussi aujourd'hui à Paris à une marche sur les médias. Ils veulent se rendre devant les sièges de Radio France, de TF1 ou encore de France Télévisions. La ville à surveiller aujourd'hui pour cette mobilisation des Gilets jaunes, c'est Strasbourg. Appel national et international à venir manifester tous à Strasbourg. C'est le nom assez clair de ce rassemblement. Place de l'Étoile, on retrouve Viloen Munoz-Boileau. Viloen, est-ce que cet appel à manifester massivement a été entendu?
Écoutez, on est loin des milliers de manifestants annoncés pour l'instant. C'est peut-être l'effet de la pluie et du mauvais temps annoncé pour l'après-midi. Ils sont plutôt plusieurs centaines. Ils viennent de toute l'Alsace, mais aussi de Lorraine, de l'Allier. Il y a aussi des street medics venus d'Allemagne. Alors, je vous le rappelle, c'est un rassemblement qui se veut international. Les autorités craignent donc que des black blocs étrangers se joignent aux manifestants pour faire dégénérer la manif. La vigilance a donc été renforcée au niveau des frontières. Autre mesure de précaution, la préfecture a interdit le centre-ville et le parvis de la gare aux manifestants. Les Gilets jaunes ont donc prévu de contourner le centre par les quais pour rejoindre ensuite les institutions européennes. C'est là que doit s'achever le rassemblement en fin de journée.
Viloen Munoz-Boileau en direct de la place de l'Étoile à Strasbourg pour France Inter. D'autres manifestations sont prévues un peu partout en France. Une opération escargot a lieu par exemple en ce moment sur le périphérique lyonnais. Il faut recruter dans l'éducation nationale, et c'est le ministre lui-même qui le dit. Deux jours après les annonces d'Emmanuel Macron, Jean-Michel Blanquer donne des chiffres ce matin chez nos confrères de France Info. Il annonce la création d'au moins 2000 postes par an en primaire, 2300 rien que pour l'année 2019-2020.
Nous ne fermerons pas d'école primaire. C'est la première fois qu'un gouvernement s'engage à faire cela. C'est énorme. Rendez-vous compte que déjà, dès la rentrée prochaine, nous en programmions beaucoup moins que toutes les années précédentes depuis des décennies. Cette année, nous allions en fermer 186. Eh bien, même ce 186, nous allons revenir dessus, c'est-à-dire nous allons école par école regarder avec les maires concernés si nous la fermons réellement. C'était déjà quelque chose que je commençais à faire, c'est-à-dire à faire beaucoup plus attention à la vie du maire et à la vie des autorités locales et de tous les acteurs. Ce sera encore plus le cas maintenant, et avec comme résultat concret la mise en œuvre dès septembre prochain de cette mesure annoncée par le président de la République.
Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui confirme donc l'annonce il y a deux jours d'Emmanuel Macron, plus de fermeture d'école. Le président a aussi promis un maximum de 24 élèves par classe jusqu'en CE1. C'est journée off aujourd'hui en Espagne, veille de vote et pas n'importe quel vote, les élections législatives anticipées. Les Espagnols doivent renouveler les deux chambres du Parlement. C'est la troisième élection dans le pays en 3 ans et demi, et à moins de 24 heures de l'ouverture des bureaux. C'est le flou total, une grande question. Demain, un grand test, ce sera pour le parti d'extrême droite Vox, inexistant dans les sondages il y a encore un an. Il pourrait faire une entrée fracassante sur la scène politique espagnole. Son dernier meeting, c'était hier soir, Plaza des Colonnes, à Madrid. Isabelle Labéry était pour France Inter.
Un fuerte aplauso para Santiago Abascal.
Allure conquérante sur son estrade, Santiago Abascal attaque l'une de ses cibles favorites, les gauchistes.
Nos estigmatizan. Se ríen de todos nosotros.
Ils nous stigmatisent, ils se moquent en disant que nous ne sommes pas modernes.
Porque el amor a la familia,
mais l'amour de la famille, l'amour de la patrie, le respect de la foi sont des valeurs éternelles.
Eternos, viva España!
Le patron de Vox a libéré un sentiment nationaliste en sommeil depuis Franco.
Si tu antes llevabas la bandera de España,
avant, quand tu sortais le drapeau espagnol, on te traitait de facho. Mais grâce à ce parti, tu peux le faire sans honte.
Y este partido te lo permite.
El himno. Escuchamos.
Pendant l'hymne national, spontanément, Josefina salue, bras droit tendu vers le ciel.
C'est parce que je suis espagnole.
Non, non, tu peux pas. Ça, c'est associé aux nazis.
Pas du tout. Pour moi, ça montre juste que je suis de droite.
Hier, le chef du gouvernement socialiste, Pedro Sanchez, a mis en garde. L'extrême droite pourrait obtenir un score bien plus élevé que ne le prédisent les sondages. Madrid, Isabelle Labéry, France Inter.
Et on va en parler justement avec notre invité Benoît Pellistrandi, historien spécialiste de l'Espagne contemporaine. Benoît Pellistrandi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en Espagne d'ailleurs en ce moment à Logroño, c'est une ville dans la province de La Rioja. On vient de l'entendre dans le reportage d'Isabelle Labéry, la grande question de ces élections demain, c'est le score, la place que va prendre ce parti d'extrême droite Vox.
Oui, c'est vraiment la grande inconnue pour le résultat que l'on attend demain. Les socialistes ont une avance dans les sondages, mais comme Vox n'a aucun antécédent, en 2015 aux élections, ils avaient obtenu 0,2% des voix. C'est une scission du Parti Populaire, mais qui n'a cessé de grimper. Les derniers sondages leur accordent 12%, mais beaucoup de gens pensent qu'en réalité, ceux qui vont voter Vox ne l'ont pas encore dit, l'ont décidé, mais le gardent secret. Et donc, on attend une surprise, sans doute, demain, qui pourra d'ailleurs être assez spectaculaire, c'est-à-dire que Vox soit au-dessus des 15%, ou au contraire, ça pourrait être une surprise, parce qu'il y a tellement d'attentes pour ce résultat, que peut-être ils seraient en dessous de la barre, et qu'il y aurait une forme de déception pour leurs partisans.
Et en plus, Vox a fait une campagne un peu spéciale, principalement centrée sur les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux ont été extraordinairement dynamiques et Vox a fait une campagne, je dirais, à la fois à l'ancienne, avec des grands meetings. Ils ont eu des succès d'assistance comme aucun autre parti ne les a eus. À Séville, qui est une terre socialiste, ils ont réussi à rassembler plus de 4000 personnes et seul l'ancien président du gouvernement socialiste, Felipe González, le réussissait dans les années 80. Même chose à Valence. Et puis, cette campagne extraordinairement dynamique sur les réseaux sociaux, mais attention, avec tous les risques de diffusion de fausses fausses nouvelles, de micro-vidéos transformant le discours de leurs concurrents et de leurs adversaires politiques. Et l'énorme difficulté, c'est que les réseaux sociaux font circuler des tas de rumeurs, des tas d'informations fausses qui excitent le climat, car nous venons de vivre une campagne particulièrement tendue.
Vous l'avez dit, en plus, certains électeurs qui envisagent de voter pour Vox ne le disent pas maintenant, ne se déclarent pas maintenant. C'est même assez généralement l'incertitude dans la plupart des électeurs. Je crois qu'il y a beaucoup d'indécis encore aujourd'hui à la veille du scrutin.
Oui, sur 37 millions d'électeurs, on estime que 40% sont encore indécis. Ça veut dire que demain, ce sera absolument clé. Il faudra regarder le chiffre de la participation. Or, le week-end s'annonce très beau, donc il n'est pas impossible que la participation soit plutôt faible. En général, quand la participation est faible, c'est plutôt meilleur pour la droite, traditionnellement, si bien que Pedro Sanchez a terminé hier sa campagne en appelant à la mobilisation de la gauche pour empêcher l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, puisque de son côté, le leader du Parti populaire, le conservateur Pablo Casado, a aussi annoncé hier qu'il était prêt à ouvrir un gouvernement en coalition avec Vox. Et là, naturellement, c'était un clin d'œil à cet électorat conservateur pour leur dire aussi, bah, d'une certaine façon, si vous votez à droite, votez utile, votez Parti populaire plutôt que Vox.
Et même demain soir, hein, quand on aura les résultats de ces législatives anticipées, là encore, on replongera peut-être certainement dans une période d'incertitude avec les prochaines élections qui arrivent en même temps que les européennes.
Dans un mois, exactement, le 26 mai, élection européenne, élection municipale, élection régionale dans 12 des 17 régions d'Espagne. Or, comme l'Espagne est un pays décentralisé, ce sont des élections majeures, que vous avez un pouvoir absolument considérable pour les dirigeants des régions et pour les maires. Or, comme justement, on s'attend demain à ce qu'il n'y ait pas de majorité claire au Parlement, majorité de gauche ou majorité de droite, eh bien, il faudra choisir avec qui gouvernera le pays. Alors, si ce sont les socialistes qui sont en tête, est-ce qu'ils font un pas vers l'extrême gauche de Podemos? Si c'est le Parti populaire, est-ce qu'ils font un pas vers l'extrême droite de Vox? Or, ils vont du coup être extrêmement prudents, puisque dans un mois, les électeurs pourront à nouveau se prononcer, et le sentiment général, c'est que, sauf majorité très claire d'un côté ou de l'autre, on aura un mois d'activité politique strictement partisane et qu'il y aura une incertitude sur la formation de ce gouvernement. Un dernier élément, il ne faut pas oublier aussi le vote, comme c'est au niveau des provinces, le vote des élus nationalistes, les Basques d'un côté, les Catalans de l'autre. Et la difficulté politique que l'on a, c'est que les députés nationalistes catalans qui vont être élus sont des députés indépendantistes.
Et on a bien compris,
savoir s'ils vous soutiennent ou non, eh bien, ça conditionne beaucoup la suite de l'affaire.
Gros point d'interrogation, on l'a bien compris avec vous, Benoît Pellistrandi, historien spécialiste de l'Espagne contemporaine. Vous venez de sortir un livre, hein, Le labyrinthe catalan. C'est aux éditions Des Clés de Brouwer. On reparlera bien évidemment demain sur France Inter de ces élections législatives en Espagne. Plusieurs capitales occidentales déconseillent formellement aujourd'hui à leurs ressortissants de se rendre tout à fait ailleurs, au Sri Lanka, 6 jours après les attentats qui ont fait au moins 253 morts dans des hôtels et des églises. La situation dans le pays est toujours sous haute tension. La nuit dernière, les forces de sécurité ont lancé 2 assauts contre ce qui ressemble à un repaire de terroristes. Une 20aine de personnes sont mortes, dont 6 enfants, Sébastien Farcy.
Une 2e cache supposée de terroristes islamistes a été trouvée dans la ville de Kalmunai, à l'est du Sri Lanka. Quand les forces de sécurité sont arrivées, elles ont essuyé des tirs et ont tué plusieurs assaillants. Cela arrive quelques heures après la découverte de ce qui ressemble au quartier général de ces terroristes, à quelques kilomètres de là. Cette fois, en pleine nuit, les terroristes présumés ont préféré se faire exploser quand les militaires sont arrivés et 8 djihadistes sont morts, emportant avec eux 6 enfants. Sur place, les autorités ont trouvé un vrai entrepôt de terroristes, 150 bâtons d'explosifs à base de nitroglycérine, 100 000 billes, des détonateurs, un drone et enfin un grand drapeau noir et blanc écrit en arabe, le symbole de l'organisation de l'État islamique. Ce lieu découvert dans la nuit pourrait donc être le repère du groupe de terroristes qui a attaqué les hôtels et les églises du pays dimanche dernier, surtout que ce bourg se situe à 30 kilomètres seulement de la ville d'origine de Zaharam Hashim, le cerveau présumé des attentats. À Colombo, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
Du foot et une finale inédite ce soir au Stade de France, 102e finale de Coupe de France de l'histoire, le PSG face à Rennes, des Bretons qui courent après le titre depuis 40 ans, depuis 1971, grosse pression et contre toute attente. En face aussi, la pression, les Parisiens ne font pas les malins. La victoire ce soir, ils en ont besoin pour retrouver un petit peu le moral, Cédric Guillot.
Le Paris Saint-Germain doit remporter cette Coupe de France pour sauver sa saison. C'est Marquinhos, le défenseur brésilien du PSG, qui le dit.
Nous, on connaît l'ambition du club. Et une fois qu'on a laissé passer la Coupe de la Ligue, la Coupe des Champions, ça joue beaucoup de choses sur ce match.
Thomas Tuchel, lui, est moins catégorique, même si l'entraîneur parisien a conscience de l'importance de cette finale dans son bilan pour sa première saison sur le banc parisien.
C'est un match très important pour nous, pour le club et pour moi aussi, personnellement. Et oui, c'est pas le moment pour réfléchir si on a fait une bonne saison ou pas. C'est le moment pour finir ce voyage dans les coupes avec cette finale.
Malgré les incertitudes sur la forme de certains joueurs et cette fin de saison globalement mouvementée, le Paris Saint-Germain reste le favori de cette finale face au Stade Rennais. Le PSG qui n'a plus perdu en Coupe de France depuis le 22 janvier 2014 et une élimination face à Montpellier. 29 succès de rang, un 30e ce soir permettrait au club parisien de remporter une 5e Coupe de France consécutive.
Coup d'envoi ce soir à 21h. La prescription culturelle de ce samedi maintenant sur France Inter, eh bien c'est le nouvel album du chœur de l'armée française. 14 chansons qui célèbrent toutes la même chose. Paris, d'ailleurs le titre de cet album, Paris, je t'aime. L'éventail est assez large, ça va grosso modo de Joe Dassin à Charles Trenet, en passant par exemple par Grand Corps Malade.
C'est Charles Hernu qui a eu l'idée de créer ce chœur de l'armée française lorsqu'il était ministre de la Défense en 1982. On l'entend souvent lors des manifestations officielles. Aurore Tilliac, la chef du chœur, avait envie de l'ouvrir à un autre répertoire.
C'est le chœur officiel de la République, donc il fait aussi beaucoup de protocoles. Mais c'est vrai qu'on l'a très longtemps cantonné au chœur de militaires qui chantent la Marseillaise, le chant des partisans. Et on a surtout de vrais musiciens qui passent de vrais concours. Enfin, on peut exprimer autre chose que ce que les gens ont l'habitude d'entendre au travers des prestations très plébiscitées à la télévision ou ailleurs.
Et dans ce disque qui célèbre Paris avec des grands standards comme le Poinçonneur des Lilas, les Feuilles Mortes, Aurore Tilliac a souhaité aussi regarder de l'autre côté du périphérique.
Parfois, on la regarde moins, la banlieue, et je trouve qu'il y a des choses assez géniales. Il y a une chanson de Grand Corps Malade qu'on a reprise, là, justement, avec celle des frères Jacques, et une petite citation, d'ailleurs, de NTM sur la fierté un petit peu d'être de banlieue, qui me semblait tout à fait opportune. Donc, je trouvais que c'était normal d'inclure, à un moment donné, la banlieue, et surtout de donner un regard peut-être un peu moins courant, en tout cas, de ce qu'on a l'habitude de voir ou de lire.
Mais le tube du disque reste la chanson qui célèbre la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées.
Et c'est bien sûr Stéphane Capron qui nous a fait découvrir cet album Paris je t'aime par le chœur de l'armée française, un album qui vient de sortir chez Warner. Un centre de soins maintenant, soins pour tortues ou hippocampes blessés. Eh bien ce centre, il se trouve à Monaco. Il est inauguré aujourd'hui. Alors, ce n'est pas vraiment une première, il en existe déjà un au Gros-du-Roi, un centre qui a accueilli en 15 ans 250 tortues. Aujourd'hui, c'est l'Institut océanographique de Monaco qui ouvre ses portes au public avec un objectif derrière les soins, bien évidemment, sensibiliser les visiteurs à ces espèces qui sont pour la plupart toutes en grand danger, Sophie Bécherel.
Les tortues sont parmi les plus anciens animaux sur Terre. Elles ont même précédé les dinosaures il y a 250 millions d'années. Elles sont très résilientes, pourtant depuis quelques décennies, surpêche, pollution, occupation du littoral, les menaces. Robert Calcagno, le directeur général de l'Institut océanographique de Monaco.
Les populations de ces tortues marines diminuent. Les 7 espèces de tortues marines qui restent existantes dans nos océans sont toutes menacées d'extinction. Il nous a semblé donc absolument indispensable de réagir et d'expliquer ces menaces qui pèsent sur l'océan et tout particulièrement sur les tortues marines.
Le centre est composé d'une salle de soins, de 5 bassins où les tortues resteront hébergées plus ou moins longtemps en fonction de leurs blessures. Olivier Morel est chef des aquariums au musée océanographique.
On va être amené à soigner tout type de blessures, on le sait. On peut avoir des carapaces fendues suite à une collision avec un bateau, des tortues qui ont ingéré du plastique et du coup qui ont leur tube digestif complètement bloqué par ce plastique. On peut avoir des tortues qui ont été emmêlées dans des filets, dans des cordes. On peut avoir aussi des tortues qui sont avec des hameçons dans la bouche.
Une fois guéries, elles seront ensuite transférées dans le bassin de réhabilitation, dernière étape avant le retour à la mer. Certaines seront équipées d'une balise Argos.
Voilà pour ce centre de soins qui ouvre aujourd'hui à Monaco, un mot de la route, avec un samedi classé orange dans le sens des départs sur les routes d'Île-de-France. Partout ailleurs, au niveau national, pour aujourd'hui, c'est vert. Le temps, tout de suite.
La météo avec Gautier, le fabricant français de mobilier contemporain qui met de la vie dans les espaces, salons, séjours et les chambres pour petits et grands.
Et la météo, c'est avec vous Jean-Michel Golinski.
Aujourd'hui, seul le bassin méditerranéen va échapper au ciel d'averse qui va survoler la plupart des régions. Des averses plus fréquentes et parfois ponctuées d'orages du nord de la Seine au quart nord-est, le tout accompagné d'un vent très turbulent, avec de la neige en moyenne montagne sur les Alpes et le Massif central et seulement à partir de 800 mètres en soirée sur les Vosges, avec des températures plus fraîches d'environ 5 degrés par rapport à hier du nord de la Loire au Grand Est. Elles vont stationner à peu près au même niveau dans le quart sud-est et augmenter légèrement près de la Garonne.